Chapitre 4. Max était absent depuis près de 2 heures et les deux femmes commençaient à s'inquiéter. Elles traversaient la salle bondée quand Robin des Bois et frère Tuck les abordèrent.
« Une belle sirène me fera-t-elle oublier Marianne ?» demanda Robin à Éponine en la prenant dans ses bras.
« Un moine n'en est pas moins un homme. « Sa majesté m'accordera-t-elle une danse ?»
fit l'autre homme. Nicole sourit et se laissa emmener sur la piste. Frère Tuck était bavard. Après quelques mesures, il se recula et posa une question. Comme convenu, elle se contenta de hocher la tête. À la fin du morceau, il rit et déclara
« Seriez-vous muette ?»«
J'ai mal à la gorge, »
dit-elle, en tentant de modifier le timbre de sa voix. Le changement d'attitude de l'inconnu fut très net, et les craintes de sa cavalière grandirent à la fin de la danse.
« Votre voix m'est familière, »
dit-il.
« Je me demande où nous nous sommes déjà rencontrés. Je suis Wallace Michelson, le sénateur de la circonscription ouest de Beauvois. »
« Nous nous connaissons, » se dit-elle angoissée. C'est un des premiers partisans de Nakamura et de Macmillan. Elle fut heureuse de voir son ami et Robin des Bois revenir vers eux avant que son silence n'eût éveillé trop de soupçons. Éponine dut comprendre qu'il y avait Anguille sous roche, car elle prit la main de Nicole et déclara
« Sa Majesté et moi allions nous refaire une beauté quand nous sommes tombés dans l'embuscade tendue par les brigands de la forêt de Sherwood. »
Elles s'éloignèrent, suivi des yeux par les deux hommes. Sitôt dans les toilettes, Éponine ouvrit tous les boxes pour s'assurer qu'elles étaient seules.
« Il a dû se produire un imprévu, »
murmura-t-elle.
« Max est peut-être allé à l'entrepôt chercher l'équipement de rechange. »«
Frère Tuck est un sénateur de Beauvois. Il a failli me reconnaître. »«
Allons attendre Max sous le grand arbre. »
Elles remarquèrent au même instant le bourdonnement de la petite caméra qui pivotait pour suivre leur déplacement. Nicole tenta de se rappeler leurs propos.
« Avons-nous révélé qui nous sommes ?»
Elle s'inquiétait, surtout pour son ami, qui resterait dans la colonie après son évasion ou sa capture. Lorsqu'elles traversèrent la salle de bal, Robin et frère Tuck leur firent signe de venir les rejoindre. Éponine désigna la sortie, puis leva 2 doigts devant ses lèvres pour leur indiquer qu'elle désirait fumer. Elle regarda par-dessus son épaule en ouvrant la porte.
« Ils nous suivent !»
murmura-t-elle. À 20 mètres de l'entrée du gymnase où se tenait le bal, se dressait un grand orme importé de la terre. Sous sa ramure, Éponine fouilla dans son sac, prit une cigarette et l'alluma rapidement.
« Tiens, tiens !»
fit Robin des Bois, qui les rejoignit avec son acolyte. « Notre jolie sirène ne sait donc pas que cette habitude néfaste lui fait perdre plusieurs années de vie ?» Elle manqua rétorquer que le RV-41 lui serait fatal bien avant la nicotine, mais elle refusa d'encourager ses hommes à poursuivre la conversation. « Nous espérions que vous accepteriez de boire un verre en notre compagnie. » ajouta Robin.
J'aimerais mieux vous connaître,
déclara Tuck à Nicole.
Votre voix m'est familière et je suis certain que nous nous sommes déjà rencontrés.
Elle toussa et regarda alentour. Elle vit 3 policiers dans un rayon de 50 mètres.
Pas ici, pas maintenant, pas seulement 2 pas de la liberté.
Sa Majesté est souffrante,
dit Éponine.
Nous devons rentrer.
Je suis médecin, l'interrompit Robin avant de s'adresser à Nicole. Je devrais pouvoir vous aider. Elle respirait avec difficulté. Elle toussa et se détourna.
Le tout de sa majesté m'inquiète, fit alors une voix familière. Il serait plus sage de la reconduire au palais.
Nicole leva les yeux sur Neptune, qui lui adressait un large sourire. Derrière lui, à moins d'une 10aine de mètres, elle vit le Bogey. Soulagée, Elle étreignit Max et oublia presque le danger.
Le roi des mers se fera un plaisir de vous escorter jusqu'à son château, où vous n'aurez plus à redouter ses hors-la-loi et autres brigands.
Les deux hommes semblaient le trouver amusant, bien qu'il eût fait échouer leur projet.
Je vous remercie, Robin, et vous aussi, frère Tuck,
ajouta Max en aidant les femmes à s'asseoir à l'arrière de son véhicule.
J'apprécie grandement les attentions dont vous avez entouré mes amis.
Le moine approcha, sans doute pour poser une question, mais Max appuya sur les pédales.
C'est à regret que nous mettons un terme à cette nuit de mascarade et de mystère,
dit-il en les saluant de la main.
Mais nous ne pouvons résister plus longtemps à l'appel du grand large.
T'as été fantastique,
dit Éponine en lui donnant un baiser.
Vous avez raté votre vocation,
fit remarquer Nicole.
Vous auriez dû devenir acteur plutôt que fermier.
J'ai tenu le rôle de Marc-Antoine pour la fête du lycée. Amis romains, compatriotes, écoutez-moi. Je suis venu enterrer César et non chanter ses louanges.
Tous rirent. Ils étaient dans une petite clairière à 5 mètres de la berge du lac Shakespeare. Des buissons et des arbres les dissimulaient de la route et des pistes cyclables. Max aida Nicole à sangler le réservoir d'oxygène dans son dos.
« Tout est prêt ? »
demanda-t-il. Elle hocha la tête.
« Les robots vous attendent à côté de la cachette. Ils comptent sur moi pour vous rappeler de descendre par palier. »
« Je ne sais comment vous remercier, »
fit-elle gênée. Éponine vint l'étreindre.
« Bonne chance, j'ai pour vous une profonde affection. »«
Moi aussi, »
dit Max en manquant l'étouffer entre ses bras. Ils la saluèrent de la main alors qu'elle reculait dans les hauts fonds.
L'eau était plus froide qu'elle ne s'y attendait.
Les variations de température s'amplifiaient depuis que les colons contrôlaient eux-mêmes les stations climatiques. Elle envoya de l'air dans sa combinaison de plongée afin de ralentir sa descente.
« Rien ne presse, détends-toi, tu devras nager longtemps. »
Jeanne et Aliénor lui avaient rabâché tout ce qu'elle devait savoir pour pouvoir localiser le tunnel qui passait sous l'enceinte de cet habitat. Elle alluma sa lampe et vit la ferme hydroponique loin sur sa gauche.
Je dois progresser sur 300 mètres vers le centre du lac, perpendiculairement au bassin d'élevage des saumons, et rester à 20 mètres de profondeur tant que je ne vois pas une plateforme en béton.
Elle ressentit les premiers effets de la fatigue et se rappela une discussion avec Richard des années plus tôt. Ils envisageaient de quitter New York à la nage.
Ce n'est pas ma spécialité, avait-elle déclaré. Je ne réussirai jamais à atteindre l'autre rive.
Il lui avait assuré qu'une athlète dans son genre n'aurait aucun problème.
Et voilà que j'emprunte le même chemin que lui, à 60 ans, et alors que ma forme laisse vraiment à désirer.
Elle vit la plateforme et descendit de 15 mètres en surveillant les manomètres. Elle repéra une des 8 stations de pompage qui brassaient les flots au fond du lac.
L'entrée du tunnel est située derrière les moteurs.
Elle mit du temps à la trouver, car des herbes et des algues la dissimulaient. Il s'agissait d'un conduit circulaire de 4 mètres de diamètre, une issue de secours dont Richard avait voulu doter cet habitat lors de sa conception. Un bon kilomètre séparait l'entrée de ce passage du point où il débouchait dans la plaine centrale, et Nicole se sentait déjà très lasse. Pendant ces 2 années d'incarcération, elle n'avait guère entretenu sa forme physique. Ses vieux muscles ne résistaient plus à la fatigue. Elle avait des crampes et devait faire de fréquentes pauses. Elle commençait à craindre de manquer d'oxygène avant d'avoir atteint le bout du tunnel. Il lui restait 100 mètres à parcourir, mais son corps s'ankylosait et ses membres refusaient de la propulser. Ce fut alors qu'une douleur lui déchira la poitrine. Les élancements se poursuivirent, même après que le bathymètre lui eut indiqué que le passage remontait. Elle sortit de l'eau et manqua s'effondrer. Elle était à bout de souffle et n'avait même plus la force de soulever la trappe métallique qu'elle voyait au-dessus de sa tête. Craignant d'avoir dépassé ses limites, elle décida de faire une sieste avant de sortir. 2 heures plus tard, d'étranges sons l'éveillèrent. Elle tendit l'oreille. Elle reconnut des voix, mais ne distingua pas la teneur de leurs propos.
Que se passe-t-il? Si les policiers m'ont retrouvé, qu'attendent-ils pour descendre?
Elle alla prendre sa lampe dans le matériel de plongée, entreposée du côté opposé du tunnel. Elle regarda les jauges pour déterminer combien il lui restait d'oxygène. Pas de quoi rester sous l'eau plus de quelques minutes, conclut-elle. On frappa un coup sec sur la trappe.
« Êtes-vous là, Nicole ?»
demanda Jeanne d'Arc.
« Si oui, identifiez-vous. Nous ne sommes pas assez fortes pour soulever ce panneau. »«
Oui, c'est moi !»
cria-t-elle soulagée.
« Je vous rejoindrai dès que je le pourrai !»
Elle portait toujours sa combinaison trempée et elle frissonna sitôt à l'extérieur. Dans ce secteur de Rama, la température n'était guère supérieure à 0 degré. 80 mètres séparaient le tunnel du point où Ali et Éponine avaient dissimulé de la nourriture et des vêtements secs, et elle claqua des dents tout au long du trajet. Puis Jeanne et Aliénor lui dirent d'enfiler un uniforme. Elles expliquèrent que pour atteindre New York, il leur faudrait traverser l'habitat adjacent.
« Si des soldats sont dans les parages, ils ne s'étonneront pas de voir un militaire »,
déclara Aliénor après s'être nichée dans une poche de la veste. Une fois au sec, Nicole remarqua que la faim la tenaillait. Tout en mangeant, elle rangea le sac à dos. Elle comprit immédiatement que pénétrer dans le secteur voisin serait moins facile que prévu. Elle n'avait rencontré aucun humain dans la plaine centrale, mais une sentinelle gardait l'entrée de ce qui avait été l'univers des Aviens et des Céciles. Le trio s'arrêta à 300 mètres de la route.
« Ils ont dû renforcer les mesures de sécurité depuis votre évasion, »
dit Jeanne.
« Les fois précédentes, nous sommes passés sans encombre. »
« Et il n'existe pas d'autre accès ?»«
Non, »
répondit Aliénor.
« Ils ont simplement élargi le tunnel foré par la sonde et construit un pont au-dessus de la douve.
Devons-nous impérativement traverser cet habitat pour rejoindre Richard ?»«
Oui, »
confirma Jeanne.
« Une grande muraille isole tous les mi-cylindres nord de Rama. Nous pourrions la survoler si nous disposions d'un avion, mais ce n'est pas le cas. »
Elles attendirent dans le froid et l'obscurité. À intervalles réguliers, un des deux robots partait en éclaireur et revenait annoncer qu'il y avait toujours une sentinelle de faction. Nicole était lasse et irritée.
« Nous ne pouvons pas moisir ici plus longtemps, »
déclara-t-elle.
« Il faut trouver une solution. »
« Richard n'a pas prévu cette éventualité, »
rétorqua Aliénor. Et Nicole se souvint que ses compagnes miniatures n'étaient que des machines. Elle fit un somme et rêva qu'elle dormait, nue, sur un gros cube de glace. Des aviens fondaient vers elle en piqué et des centaines de petits robots l'entouraient. Ils psalmodiaient quelque chose à l'unisson. À son réveil, elle exposa ses intentions à ses petites amies. À la première interruption du trafic, Jeanne et Aliénor détourneraient l'attention de la sentinelle et elle mettrait cette diversion à profit pour franchir l'obstacle.
« Allez nous attendre dans une anse que vous trouverez à environ 300 mètres sur la droite, de l'autre côté de la douve, »
dit Aliénor. 20 minutes plus tard, les robots faisaient un tapage de tous les diables à une 50aine de mètres de l'entrée du tunnel. Nicole s'y engagea dès que la sentinelle eut quitté son poste. Un long escalier descendait en zigzag sur plusieurs centaines de mètres jusqu'à la douve qui cernait l'habitat voisin. Les lieux étaient éclairés, de même que le pont visible en contrebas, et elle serra les dents en constatant que deux ouvriers montaient à sa rencontre. Ils la croisèrent sans lui prêter attention, et elle félicita mentalement Richard d'avoir songé à lui fournir un uniforme. Elle s'arrêta au bord des flots pour admirer le microcosme extraterrestre. L'énorme structure brune cylindrique de 500 mètres de hauteur qui abritait autrefois la communauté des Aviens et des Céciles, la grosse sphère suspendue au plafond qui avait illuminé les lieux et l'anneau de mystérieuse construction blanche bâti le long d'un canal circulaire cernant la tour centrale. Le soleil artificiel était éteint depuis l'arrivée des envahisseurs. Malgré les projecteurs que les hommes avaient installés çà et là, elle ne discernait que vaguement les contours du grand cylindre. Les lieux devaient être magnifiques quand Richard les a découverts, et les humains ont une fois de plus étendu leur hégémonie en exterminant des innocents. Aliénor et Jeanne la rejoignirent, et elles longèrent la douve dans un secteur à la végétation luxuriante. Un des robots les précédait pour s'assurer que la voie était libre. Nicole dut à deux reprises attendre que des soldats ou des ouvriers soient passés sur la route. Elle en profita pour étudier la flore et vit un étrange croisement entre une sangsue et un ver de terre tenté de pénétrer dans sa botte. Près de 72 heures s'étaient écoulées depuis qu'elle avait plongé dans le lac Shakespeare lorsqu'elle atteignit le lieu de rendez-vous. Elle se trouvait à l'extrémité opposée de l'habitat, là où les humains étaient peu nombreux. Un sous-marin fit surface. Son écoutille s'ouvrit, et ce fut un Richard Wakefield barbu et souriant qui se précipita à sa rencontre. Nicole frissonna de joie quand il la prit dans ses bras.